Donc ce texte de la construction de la maison sur le roc est bien connu et nous en connaissons en général le sens. C'est pour nous dire que nous devons construire notre vie pour qu'elle dure et non pas pour qu'elle reste dans le passager et dans l'éphémère, pour nous dire que nous pouvons construire une existence qui résiste aux épreuves, une existence plus forte que toutes les tempêtes qui peuvent passer sur notre vie, et même une existence plus forte que la mort. Ce texte nous dit aussi, mais ça vous l'aviez déjà trouvé sans que j'aie besoin de vous le dire, que le Christ nous dit que le meilleur rocher, le meilleur fondement, la meilleure base que nous pouvons trouver pour notre vie, c'est Dieu lui-même, c'est le Christ. Dieu en tant qu'il est l'éternité, qu'il est ce qui est solide, de durable, et également que le meilleur moyen de faire durer sa vie, c'est de s'enraciner dans la pratique de la parole, c'est-à-dire de mettre en œuvre ces commandements d'amour, de pardon et de service que nous donne le Christ. C'est cela qui donne de la consistance, qui donne une force inébranlable à notre vie. Et puis finalement, on pourrait aussi continuer en disant qu'il faut qu'il y ait des fondations, donc il faut creuser, approfondir sa vie, rechercher l'essentiel, etc. Mais ce n'était pas l'objet de mon propos d'aujourd'hui. La question que je me suis posée en lisant ce texte, c'est la suivante. Quelle maison voulons-nous construire? Et de quoi est-il question quand on parle de la construction d'une maison? Et en cherchant dans les différents sens que peut avoir le mot « maison » dans la Bible, j'en ai trouvé trois types de maisons qui semblent disparates, mais je crois qu'en fin de compte, il s'agit d'une seule et même chose. La première, c'est que le mot « maison » dans la Bible désigne la famille en général. La famille. Par exemple, on dit que le Christ appartient à la maison de David. Ou encore, dans le psaume 115, on dit « maison d'Aaron, bénissez le Seigneur », etc. Et donc, la maison, c'est bien, je dirais, la famille, c'est-à-dire la descendance. C'est aussi les enfants que nous avons. Et je pense que, là aussi, il y a quelque chose d'extrêmement vrai. C'est que pour nos enfants, pour notre famille, il est bon que nous ayons, qu'il y ait une base solide, finalement, dans ces maisons que nous construisons. Et que cette base solide, cette base que nous signifions par le baptême, par exemple, eh bien, c'est quoi? Et c'est, effectivement, je crois, la parole, cette parole qui nous rappelle l'essentiel de la vie, cette parole de l'Évangile qui nous dit ce qui est vrai et qui nous invite à nous recentrer sur ce qui est fondamental, essentiel et éternel dans la vie pour éviter de croire que nous pourrions construire nos vies comme des sortes de châteaux de cartes, comme si nous devions empiler des actes sans sens et sans lien les uns avec les autres en faisant une sorte d'empilage qui effectivement ne peut que s'effondrer un jour. Alors pour les enfants, nous faisons la même chose. Nous leur donnons des bases, nous leur donnons des enracinements, des fondations, et puis après, eh bien, c'est eux qui construisent. Alors nous ne sommes pas responsables de la façon avec laquelle les enfants construisent, nous ne sommes pas tenus du résultat, mais par contre, je crois que si nous n'avons pas donné à nos enfants de ce fondement essentiel, là, certainement que nous sommes responsables. Mais quand on parle de ces enfants et de cette maison, évidemment, on ne peut que penser à ce psaume 127 que je vous ai lu tout à l'heure. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs bâtissent en vain. » Et ensuite, le psaume dit que la vraie bénédiction de Dieu, c'est d'avoir des enfants nombreux. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? A priori, non, mais en fait, je pense que oui, parce que, comme nous l'avons vu, la maison peut aussi être la famille et la descendance. Mais ce qui m'a souvent frappé en entendant ce psaume, et peut-être plus particulièrement en l'entendant chanter dans des monastères par des moines qui, faisant vœu de chasteté, a priori ne font pas tout pour avoir de nombreux enfants, je me suis dit comment ces gens-là peuvent-ils chanter toutes les semaines « Des fils, voilà l'héritage que donne le Seigneur, des enfants, voilà la bénédiction de Dieu. » Jusqu'à ce que je comprenne, bien sûr, que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas forcément d'avoir des enfants dans la chair. Sinon, le Christ aurait été maudit, puisqu'il n'a pas eu d'enfants. Et donc d'avoir des enfants ou non dans la chair, ça c'est une chose que nous avons ou que nous n'avons pas, c'est le cours des événements terrestres de la vie, et nous n'y pouvons pas forcément grand-chose, c'est comme ça ou ça n'est pas comme ça, ça n'est pas très grave. Mais que par contre, ce qui est toujours en jeu dans cette notion d'enfant, c'est la question de la fécondité. C'est-à-dire, est-ce que notre vie finalement reste centrée, retournée, renfermée sur elle-même, ou est-ce que notre vie peut aller vers l'autre ? Est-ce que nous sommes capables de donner ? Alors il est vrai que d'avoir des enfants à soi, cela nous contraint en quelque sorte à nous ouvrir sur l'autre, à nous poser la question de ce que nous transmettons, la question de ce que nous donnons. Et tous les parents le savent, ils sont prêts à, je dirais, à se priver eux-mêmes pour donner à leurs enfants, ils sont prêts à renoncer à eux-mêmes, renoncer à leur confort, renoncer même à leur nuit, pour que leurs enfants puissent grandir et puissent croître et puissent avoir leur vie ensuite. Eh bien, cela c'est une chance, mais c'est quelque chose que nous devons faire, ce que nos enfants petits nous forcent à faire, c'est quelque chose que nous devons faire et que nous devons nous efforcer de faire, que nous ayons des enfants ou non, et qu'ils soient grands ou petits, et même si nous n'avons pas la charge de s'occuper d'un tout petit enfant, nous devons toujours nous dire, l'essentiel c'est que notre vie ne reste pas centrée, renfermée, retournée sur elle-même, pour elle-même, dans une sorte d'égoïsme qui tourne en rond, mais au contraire que notre vie sorte d'elle-même pour aller vers l'autre, et pour donner, pour partager, pour servir, et pour transmettre. C'est bien cela, je crois, effectivement l'essentiel, et pour transmettre, pour donner, c'est effectivement, je crois, lorsque l'on a au fond de soi-même une conviction forte, lorsque l'on a une foi dans le sens où l'on croit dans un certain nombre de choses essentielles, lorsque l'on croit dans le pardon, dans la paix, dans l'amour, dans le service, alors notre vie peut effectivement donner au monde, lorsque la source principale de notre préoccupation cesse d'être nous-mêmes, cesse d'être notre propre réussite, pour être le service du monde, pour être le don total de l'amour. Et c'est cela, je crois, qui est essentiel, et c'est cela qui dure éternellement de notre vie, plus que les actes passagers, plus que nos petites réussites professionnelles, finalement très souvent dérisoires et momentanées. Ce qu'il y a vraiment d'éternel, de durable et de fort dans notre vie, ce sont ces actes, parfois passés inaperçus, mais ces actes d'amour, ces actes de don, ces actes de pardon, ces actes de service, c'est cela la seule grande et extraordinaire chose de notre vie. C'est ça la fécondité de notre vie. Et d'ailleurs, puisque l'on en parle de cette dimension spirituelle, je me suis dit, tiens, c'est curieux que dans la Bible, et c'est un autre sens du mot maison, mais je crois, comme je vous l'ai dit, que l'on parle de la même chose, le mot maison, en hébreu, et je crois encore aujourd'hui pour les juifs, désigne le temple, c'est la maison de Dieu, c'est le temple. Et d'ailleurs, dans Paul, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 3, dit « Vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruit. » Et donc là, effectivement, se trouve la question de la force et de la durabilité de notre maison, de notre vie, de notre famille. Et cette question, c'est cela. Est-ce que notre vie est bien la maison de l'Éternel ? Est-ce que nous sommes bien nous-mêmes ? Et est-ce que nos familles le sont aussi ? Le temple de l'Éternel. C'est-à-dire, est-ce que nos vies sont habitées ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans, en dehors de nous-mêmes, en dehors de cette espèce d'esprit un peu animal qui lutte pour sa propre survie et pour son propre confort ? Est-ce que nous sommes vraiment habités par une dimension qui nous dépasse, habité par une transcendance, habité par un absolu? Eh bien, je crois effectivement que nous ne vivons que si Dieu vraiment habite en nous. Et nous ne sommes vraiment vivants, dans tous les sens du terme, que s'il y a en nous cette dimension de l'esprit, cette lumière de l'amour, cette lumière de la foi et de l'espérance qui est en nous. Sinon, nous ne sommes que des morts vivants. Et notre vie ne peut être ainsi une maison durable que, comme si le dit l'Évangile sur la maison sur le roc, que si nous construisons sur cette parole de Dieu, que sur cette parole qui nous rappelle sans arrêt l'essentiel de dire, voilà, tout, rien ne compte, sauf la foi, l'espérance et l'amour. Et je crois effectivement que tout ce qui n'est pas habité par Dieu disparaît. Alors notre vie est une maison. Et donc la question, c'est de savoir ce que nous mettons dedans et qui l'habite. De même, en Romains, dans l'Épître aux Romains, Paul au chapitre 8 dit que nous pouvons accéder à l'éternité, à l'espérance et à tout cela, si du moins, dit-il, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si nous ne sommes pas habités par l'Esprit de Dieu, alors je crois que nous ne sommes qu'une carcasse vide et fragile, et que nous risquons de nous perdre dans notre propre image. Alors une maison qui se perd dans sa propre image, ça m'a fait penser à un texte qui n'est pas biblique, et pour une fois, j'espère que vous me le pardonnerez, mais un récit bien connu et je crois très instructif, qui se trouve dans les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, et qui s'appelle la ruine de la maison Usher. Et c'est là une histoire que je vous invite à relire, une histoire absolument extraordinaire, qui nous montre une maison, et justement cette maison qui n'est pas habitée. Et cette maison qui n'est pas habitée finit par se tordre sur elle-même et finit par se détruire. Et dans l'histoire, il est dit qu'à la fin, la maison finit par tomber dans son propre reflet, dans l'étang qui était devant cette maison. Eh bien, je crois que c'est effectivement cela est très vrai. Et que la raison profonde, d'après ce récit de la ruine de la maison Usher, la raison profonde de la ruine de cette maison, que cette maison finit par se dévorer elle-même, par tomber dans sa propre image, c'est que le maître de la maison, Usher, n'a pas d'enfant. Et donc il n'a pas de maison, je dirais, au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, cette maison ne devient qu'une sorte de carcasse mélancolique. Et d'autre part, cette maison nous est décrite comme une maison sans ouverture sur le monde, pratiquement sans fenêtre. Et il n'y a qu'une seule ouverture dans ce récit, si vous vous souvenez un peu. Une ouverture qui apparaît petit à petit. Sa seule ouverture, c'est une fissure qui apparaît dans le monde. Et cette fissure, qui au lieu d'être une vraie ouverture, est une faiblesse. Et cette faiblesse n'est pas la foi, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'espérance. C'est cette fissure d'une faiblesse qui finit par emporter toute la maison, et qui donc s'écroule dans son propre reflet. Eh bien, je crois effectivement que dans cette histoire, il y a des choses extrêmement vraies. Lorsque il n'y a pas cette fécondité dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'il n'y a pas cette ouverture sur le monde, lorsqu'il n'y a pas cette possibilité de transmettre, possibilité qui nous est offerte à tous, que nous ayons ou non, une fois de plus, des enfants dans la chair. Et la seule ouverture possible de cette vie ou de cette maison dans l'histoire de Usher, c'est la lecture. C'est la lecture, et il y a là, dans cette histoire de la maison Usher, une chose très curieuse, c'est que la seule chose un peu vivante dans cette histoire, c'est le livre qui est lu, et on se rend compte que ce qui est lu arrive. Et c'est quelque chose de très vrai, je crois. C'est la puissance du texte qui nous rappelle que finalement, nous sommes, en fin de compte, habités par ce que nous lisons, et que dans le fond, nous finissons par devenir ce qui nous habite et ce que nous lisons. C'est exactement ce que dit le Christ en disant « Celui qui construit sur la parole de Dieu, celui qui la met en pratique, c'est-à-dire celui qui la vit concrètement, eh bien celui-là, il a construit sa maison sur le roc. » Et d'ailleurs, il est vrai que dans l'entête de Béranger de cette histoire, il y a cette petite citation qui m'a plu pour une autre raison, disant « Son cœur est un luth suspendu, sitôt qu'on le touche, il résonne. » Et il est vrai que finalement, nous résonnons de ce que nous entendons et de ce que nous lisons. Et il est vrai aussi, et cela je l'ai expérimenté, c'est qu'un luth, par exemple, si on le joue tous les jours, il est une chose merveilleuse. Mais si on arrête de le jouer pendant 2 jours ou 3 jours, on ne peut pratiquement plus le reprendre. Il se dégrade très très vite, c'est-à-dire qu'il se désaccorde, les cordes se cassent et on ne peut plus rien en faire. Il y a là des images, je crois, très, très profondes et très vraies. Et ainsi donc, nous pouvons construire notre vie comme un temple pour Dieu, ouvert sur les autres, dans la fécondité, que l'on ne garde pas pour soi, mais que l'on donne pour ceux qui sont en dehors de nous-mêmes. Et alors le Christ nous dit que même si l'on détruit ce temple, en 3 jours, il le reconstruit. parce qu'il y a toujours dans le Christ cette puissance de vie nouvelle et de résurrection qui est absolument essentielle. Et puis enfin, la troisième construction, donc je veux quand même vous entretenir parce que tout à l'heure, je vous ai lu cette énigme du Cantique des Cantiques. Au chapitre 4, quand il est dit « Ton cou est construit comme une tour de David, bâti pour être un point de repère, 1000 boucliers y sont suspendus, tous les carquois des guerriers. » Que veut dire là le Cantique des Cantiques en nous parlant de cette façon avec laquelle nous devons construire notre vie et que nous devons la construire comme une tour de David? Alors, on nous dit que cette tour, et finalement, elle est à l'emplacement du cou. Or, le cou, qu'est-ce que c'est? Le cou, c'est ce qui, dans la Bible, c'est l'endroit où l'on plaçait le joug sur les bœufs, sur les ânes, les bestiaux, tout ça, pour tirer la charrue. Eh bien, il y a là la première chose, c'est que le lieu même de la construction de notre vie, je crois, se joue au niveau de notre cou, c'est-à-dire au niveau de notre capacité d'agir pour Dieu et de travailler pour lui, de nous mettre à l'œuvre, d'œuvrer pour dans le monde, pour la paix, pour la joie, pour le bonheur, pour la vie, pour l'amour et pour le pardon. Ensuite, on nous dit que ce coup, il est construit comme une tour de David. Cela nous rappelle que ce n'est pas une chose évidente, immédiate ou facile, mais qu'il y a là, dans notre vie, un travail d'élaboration et de construction, et que la capacité à servir le monde et le prochain n'est pas simplement un don que l'on a plus ou moins en fonction de son bon caractère, c'est un travail de construction que l'on doit mener dans sa vie. Cette construction, nous dit-on, est faite comme une tour de David. Une tour, c'est quelque chose de grand, d'après l'Ancien Testament, c'est la grandeur, et David, qui est l'exemple même du serviteur de Dieu, David, dont le mot en hébreu veut dire « amour », c'est bien cela, cette capacité de service, c'est ça, la grandeur de l'amour, qui est bâti pour être un point de repère, parce que oui, c'est bien cela qui doit orienter notre vie, c'est le service. Que faire? Quel est le repère dans ma vie? Dans quelle direction vais-je aller? Quel est le centre? Quel est le phare de mon existence? Eh bien, c'est le service, tout simplement. C'est le service et c'est l'amour. Et c'est cela qui dirige notre maison tout entière. 1000 boucliers y sont suspendus, nous dit le texte. Mais oui, parce que les boucliers, c'est la protection. Ça, c'est facile. Vous voyez, la symbolique biblique n'est pas très compliquée. Et quand nous sommes dans cette logique de service et d'amour, alors il y a une myriade de protections dans notre vie qui nous est donnée. Et 1000, ce qui est un multiple de 10, comme les commandements, c'est encore une fois cette obéissance à Dieu qui nous produit cette puissance de l'aide et de la protection de Dieu. Et puis, tout cela est également rempli des carquois des guerriers. Et les carquois, j'en ai parlé tout à l'heure, puisqu'il s'agit du psaume 127. Heureux l'homme qui a des enfants et qui en a rempli son carquois. Donc ces carquois des guerriers, c'est bien cela, lorsque nous sommes remplis de fils et de filles. Et lorsque notre existence est remplie de tout ce que nous avons donné et transmis à d'autres qui ne sont pas nous. Cette capacité à œuvrer pour Dieu, c'est bien ce qui nous donne la vie éternelle. La durée de notre maison, c'est ce qui elle est construite sur le fait que nous servions Dieu et que nos enfants y soient accrochés. Le service est bien, je crois, le seul lieu de notre véritable fécondité. Alors que construisons-nous? Eh bien, nous construisons une maison éternelle faite d'enfants spirituels, une maison qui aille, qui soit projetée vers l'avenir. Ça, c'est l'espérance. Nous construisons un temple pour Dieu. Ça, c'est la foi. Et enfin, nous construisons une tour pour le service, pour labourer le champ du Seigneur. Ça, c'est l'amour. Et je crois bien, effectivement, que ce que nous construisons, c'est cela. Cette triple maison n'en est en fait qu'une, et elle est résumée par ces trois mots, ces trois vertus théologales de Paul en 1 Corinthiens 13:13. Tout passera, tout disparaîtra, ne resteront que trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les trois choses, les trois seules valeurs essentielles et éternelles que nous pouvons mettre dans notre vie. Et en dehors de cela, il n'y a rien. Trois maisons indestructibles. l'une qui est la recherche de Dieu, l'autre qui est la transmission de quelque chose, et la troisième qui est de servir et d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est cela, cette maison éternelle fondée sur le roc et que rien ne peut abattre. C'est notre chance, c'est notre grâce et notre joie. Amen.